Opération Persil, les rouages d'un complot. L'équipe secrète établit un premier contact avec la centrale du SDECE, basée à Paris. Les hommes établissent un système d'identification au sein des réseaux que seul un opérateur expérimenté peut décoder. Les messages sont chiffrés pour garantir une bonne sécurité. La communication vers l'extérieur, avec les familles notamment, se fait au gré des allers-retours de la valise diplomatique. Finalement, quelques semaines plus tard, la troupe est forcée de changer de camp de base. La flotte de véhicules dédiés aux opérations est identifiée par les autorités sénégalaises. Profitant de l'inactivité extérieure due à la saison des pluies, l'équipe de l'opération Persil prend ses quartiers au camp Leclerc, une base militaire française hautement sécurisée située à Dakar. Un bâtiment est entièrement dédié à l'équipe du 11e choc. Le 11e régiment parachutiste de choc est une unité de parachutistes d'élite de l'armée de terre française qui sert d'affectation aux militaires des services spéciaux. À l'époque, cette unité était le bras armé du SDECE. De là où ils sont désormais établis, les agents peuvent enfin mieux organiser les opérations visant à déstabiliser la Guinée indépendante. À la fin de l'année 1959, alors que tout semble être au point, l'opération connaît un premier échec. Pour faciliter leur plan, il était prévu que des officiers guinéens hostiles au régime de Sékou Touré suivent un entraînement intensif visant à mettre en place un coup d'État et à assassiner le président Touré. Mais en apprenant les tenants et les aboutissants de la future opération, l'un des officiers parachutistes, de confession catholique, est dérangé par l'idée de tuer un homme élu président de son pays. Le militaire se confie auprès d'un prêtre dominicain de Dakar qui en a lui-même parlé à un ami de longue date. Cette personne est un haut fonctionnaire français. L'information a circulé d'oreille en oreille jusqu'à être réceptionnée par le ministre des Travaux publics de l'époque, Robert Buron. Suite à des désaccords politiques au plus haut niveau, le projet de coup d'État avec des militaires putschistes guinéens est avorté. Une alternative est trouvée avec la mise en place d'une vaste opération de propagande contre le régime. Des tracts sont rédigés en français, en arabe et dans les langues locales. Ils sont imprimés à Paris, puis envoyés dans l'ensemble des pays africains de la zone franc, à l'exception du Mali, transitant par différents postes au Sénégal. Parallèlement à la production de tracts, et comme il a été convenu par Focard, des imitations de billets de banque de la nouvelle monnaie guinéenne sont imprimées dans un lieu tenu secret. La qualité est remarquable. Il est quasi impossible de distinguer les vrais billets des faux. Après les officiers guinéens rebelles, les services secrets comptent sur l'aide d'une association de Guinéens résidant à Dakar et opposée au régime de Sékou Touré, Solidarité guinéenne. Cette association décide de passer à l'action en septembre de cette même année. Parmi ces Guinéens, un homme joue un rôle décisif dans la déstabilisation du pouvoir, Souleymane Baldé. Cet ancien comptable, ayant toujours travaillé au Sénégal pour la compagnie aérienne UTA et les établissements Zandre, devient un membre actif de l'Association de la Solidarité guinéenne. Lorsqu'il l'intègre, cette dernière constitue une section de l'Union progressiste sénégalaise, un ancêtre du Parti socialiste du pays. Après avoir participé à plusieurs actions, notamment l'organisation du référendum constitutionnel, Baldé devient secrétaire général de l'association. Lorsqu'il apprend ce qu'il se passe dans son pays après l'élection de Sékou Touré, il veut mener une opération militante contre ce qu'il perçoit comme une injustice infligée à sa communauté. Il faut savoir que depuis l'élection de Touré, les leaders de la communauté Fula, la communauté à laquelle appartient Baldé, n'ont ni la possibilité d'accéder au gouvernement, ni de se constituer comme parti d'opposition. Les motivations du leader de l'association guinéenne n'ont rien en commun avec les motivations du gouvernement français. L'opération Persil est une opportunité pour cette communauté d'établir un gouvernement d'union favorable à un rapprochement avec le Mali et le Conseil de l'Entente, tout en mettant fin à une alliance avec le Bloc de l'Est. Les premiers signes de contestation à l'encontre du nouveau pouvoir guinéen émergent à Mamou. Une crise politique profitable au SDECE. Les 14 et 15 février 1959, le mécontentement latent de la population se manifeste lors du congrès annuel de la section Parti démocratique de Guinée. Les membres du comité directeur sont démis de leurs fonctions pour être remplacés par des opposants au régime. Du moins jusqu'à ce que Sékou Touré, par réunion du bureau exécutif du parti, invalide cette nouvelle élection. Cette réponse antidémocratique ne va faire qu'accroître les tensions entre les communautés. Nous voici en septembre 1959. L'opposant Souleymane Baldé rencontre une délégation de commerçants, de transporteurs et quelques policiers. Le but de cette réunion est de sceller un engagement mutuel pour renverser le gouvernement. Ils conviennent également de la nécessité de la création de commandos dans tout le pays. Ces commandos auront pour mission de cibler les bâtiments administratifs, les voies ferrées et les lignes du téléphonique. L'objectif ultime est de paralyser l'ensemble des services du gouvernement en place. En octobre 1959, le second représentant de l'association guinéenne, Sadou Bobo Diallo, se rend en France. Il rend visite à un ancien gouverneur du pays, à Bordeaux. Il monte ensuite quelques jours à Paris pour rencontrer un certain Monsieur Neroy, responsable d'une organisation internationale de lutte contre le communisme. Ce dernier lui assure le soutien financier, matériel et technique de son organisation en vue d'aider les Guinéens dans leur lutte contre le pouvoir en place à Conakry. De retour à Dakar après son voyage en France, Sadou Bobo Diallo fait son rapport à Souleymane Baldé. Plus tard, les deux hommes sont attendus par le chef du personnel du gouvernement général à Dakar, Sébastien Marinacci. Il est, en quelque sorte, le financeur de l'opération. Marinacci remet à Diallo et Baldé un paquet contenant 3 millions de francs CFA issus des fonds secrets. Marinacci indique qu'il s'agit d'un premier versement, destiné à soutenir l'organisation de leur réseau clandestin. L'utilisation de l'enveloppe d'argent liquide a été préalablement validée par le commissaire général Pierre Messmer, à l'époque haut commissaire de la République en Afrique occidentale française. Maintenant que les financements sont là, il faut faire bon usage de cette enveloppe. Pour assurer la réussite de l'opération, il faut élargir les rangs des combattants. L'implication des membres des communautés Soussou et Malinké pourrait être décisive. Les deux têtes de l'association se répartissent les tâches comme suit. Sadou Bobo conduit le réseau et le comité d'action, et Baldé se charge de l'organisation interne. Au deuxième rang, il y a Mamadou Konaté, un enseignant occupant un poste de directeur d'école à Bob Dakar, responsable de la politique extérieure. Mais également Moussa Keïta, un secrétaire administratif au ministère des Finances du Sénégal, parfait pour un poste de gestionnaire du budget. Durant la même période, une délégation guinéenne entreprend des missions de reconnaissance en Guinée et commence à désigner les chefs de groupes de combat. En octobre 1959, de nouveaux individus arrivent à Dakar. Ils se qualifient de conseillers techniques européens, bien qu'ils aient l'attitude d'hommes de main. Une rencontre est organisée entre ces trois hommes, Diallo et Baldé. L'heure et le lieu sont pour le moins insolites. Le premier contact a lieu la nuit, sur une plage à proximité d'un hôtel. Les conseillers se disent envoyés par le patron, ne citent aucun nom. Ils sont venus vérifier si les 3 millions de francs CFA ont bien été remis aux Guinéens. Puis, ils ont expliqué la suite des opérations. Leur mission est d'apporter leurs connaissances techniques à la mise en fonctionnement du réseau clandestin. On ne connaît pas l'identité exacte de ces mystérieux hommes. Les communications, passant par la boîte postale numéro 1889 à Dakar, sont signées par des prénoms français, Émile, Victor et Jean. Une seconde rencontre est organisée 15 jours plus tard avec tous les membres du comité directeur. La réunion se déroule sur la même plage, au milieu de la nuit et dure environ 2 heures. Pendant tout ce temps, les conseillers européens partagent leurs conseils avec les Guinéens, discutant de l'organisation d'un réseau, des méthodes pour tendre des embuscades et pour mener des actions de harcèlement contre l'ennemi. Ce n'est que le début d'un cours militaire qui va s'étendre sur 10 séances. Au fil des rencontres, les conseillers fournissent de nouvelles enveloppes pour assurer le développement du réseau. Le montant total s'évalue à plus de 16 millions de francs CFA, toujours versés bien entendu en petites coupures. Un véritable réseau de groupes de combat clandestins est minutieusement tissé sur le territoire guinéen. Ces troupes varient en taille, passant de 11 à 30 hommes en fonction de l'importance de la zone. Au total, cela représente 288 combattants, prêts à assurer une insurrection armée dans cette République de Guinée nouvellement indépendante et dont le président Sékou Touré se rapproche dangereusement de Moscou. Leurs hommes acheminent le matériel d'armement jusqu'à la frontière guinéenne en passant par le Sénégal. Le chargement est ensuite récupéré par les hommes du réseau guinéen. Ce ne sont pas moins de 5 tonnes d'armes qui ont été introduites sur le territoire via de simples pick-up. Des armes légères principalement, pistolets, fusils d'assaut, grenades, munitions notamment. En mars 1960, tous les chefs de région impliqués dans le complot se réunissent en plein milieu de la brousse pour partager les directives établies par le comité directeur du réseau, ainsi que d'expliquer en détail les méthodes pour monter une embuscade ou attaquer un bâtiment en vue de le détruire. Mais en mai de la même année, la rumeur d'un complot commence à se répandre dans le pays. Dans la capitale sénégalaise, l'implication française dans l'opération est mise en lumière. Les autorités de Dakar sont contraintes de mener une opération, forçant les militaires français à mettre fin à leur collaboration avec les rebelles guinéens. Ces derniers sont désormais seuls face à leurs responsabilités. Les conseillers militaires français informent l'opposant guinéen Baldé de la fin de leur collaboration. La suite de l'opération Persil semble dépendre du niveau de force de frappe du réseau. Mais il est déjà trop tard. Le 10 mai 1960, les autorités de police sénégalaise mettent la main sur une cargaison d'armes de grande envergure en transit vers la Guinée. Probablement les dernières armes qui devaient servir au soulèvement prévu quelques semaines plus tard. L'arrestation de Baldé et de ses confrères ont conduit les autorités sénégalaises à découvrir la mise en œuvre de l'opération Persil et le degré d'implication de la France dans ce qui devait être un coup d'État sanguinaire. Cette arrestation complexifie les relations diplomatiques entre les deux pays. Le président du Conseil sénégalais, Mamadou Dia, ne sait pas comment exprimer sa désapprobation envers le gouvernement français sans mettre à mal ses relations avec ce dernier. Il décide alors de rédiger une simple lettre informative, espérant une réaction du général de Gaulle. Selon Jacques Foccart, qui n'aurait pas donné tous les détails de cette opération au président, le général de Gaulle s'est simplement mis en colère, sans le questionner sur les motifs de ses initiatives. Il finit même par confier sa déception sur l'échec de l'opération. Il demande à ce que soit rédigée une lettre de réponse à l'intention du président sénégalais. De Gaulle le remercie pour ses informations et promet l'ouverture d'une enquête. Le 20 mai, Mamadou Dia rédige une autre lettre, cette fois-ci adressée au haut-commissaire représentant le président de la communauté à Dakar. Cette correspondance, classée « secret défense », relate les circonstances de l'enquête. Il avait demandé un renforcement de la surveillance dans la région de Kédougou. Les informations fournies par les habitants ont permis à un inspecteur de police de ce service de découvrir un dépôt d'armes de guerre le 9 mai 1960 dans un petit village situé à 5 km de la frontière guinéenne, dans l'arrondissement de Banda Fassi. Quelques jours plus tard, le ministre sénégalais se rend en personne à Paris. Il remet directement à De Gaulle un nouveau document, un mémo intitulé « Affaire, dépôt d'armes de Kédougou ». C'est une nouvelle preuve de la responsabilité des Français dans ce trafic. Au cours de son arrestation, Souleymane Baldé a parlé. Il a évoqué les déplacements de Sadou Bobo Diallo en France, les contacts avec Neroy et les conseillers techniques envoyés à Dakar. L'enquête a également mis en lumière l'identité des hommes du 11e choc, via l'identification d'un véhicule à Tambacounda, où il avait effectué de nombreux trajets. Cette identification a conduit à la localisation de 6 véhicules abandonnés chez un garagiste à Dakar. Tous ces véhicules avaient été immatriculés au nom et au grade d'officiers français, dont Freddy Bauer, Alain de Gaigneron de Marolles, François Saint-Art et Guy Tocqueville. Les autorités sont certaines que ces mêmes véhicules ont été utilisés pour transporter des membres guinéens du réseau de résistance. L'échec de l'opération Persil a tout de même eu des conséquences sur la politique menée par le président guinéen. La saisie des armes à la frontière sénégalaise a confirmé la rumeur d'un complot dans le pays. Le président Sékou Touré se braque. Il considère qu'il ne peut pas respecter la ligne purement démocratique de son parti. Il en va de la survie de l'indépendance du pays. Durant plusieurs de ses conférences publiques, il réaffirme la nécessité d'interdire la construction d'un parti d'opposition si celui-ci ne sert pas les intérêts du pays. Des intérêts qu'il a lui-même dictés. Il pense avoir trouvé une forme d'alternative entre la dictature et la démocratie en nommant sa politique « dictature démocratique ». Ses prises de décision dépendent d'accords passés lors d'assemblées générales et visent à protéger la liberté et les droits de son peuple. Le régime de Touré devient de plus en plus répressif, jusqu'à atteindre son paroxysme en 1970 lors de l'opération Mare Verte. Mais ceci est une autre histoire.